dites-nous tout.
Alors, avec Jean-François Nadeau, avant d'aller retrouver Charles Danzig à Paris, nous allons donc parler de ce fameux imaginaire des bas-fonds tel que recensé par l'historien Dominique Khalifa. On le disait en ouverture d'émission, Jean-François, c'est un spécialiste de l'histoire du crime. Déjà, oui. À la base, c'est quelque chose d'intéressant. Il a publié beaucoup d'ouvrages au cours de sa carrière. Donc, cet ouvrage que vous avez lu, « Histoire des bas-fonds, un imaginaire », c'est son 12e livre. Hein?
Oui, qui vient d'être publié aux éditions du Seuil. C'est assez fascinant parce qu'on se rend compte comme pour presque toutes les catégories sociales, oui. L'idée qu'il existe des criminels, des mauvais quartiers, des gens mal famés, des pauvres à qui on pourrait attribuer les pires crimes potentiels, donc qui seraient criminels de par leurs conditions même. On se rend compte à quel point ça, comme beaucoup d'autres choses dans nos sociétés, ça appartient à l'histoire. Il y a une construction de ça qui tient, il le montre assez bien, notamment au récit qu'on a bien voulu en faire, que la littérature, que les livres, que les romanciers ont voulu en faire, mais aussi que les journalistes ont voulu en faire. Il montre en quelque sorte que cette idée-là des bas-fonds, ça tient à l'idée donc de l'eau. Hein? L'eau qui serait quelque chose de putride, il y a quelque chose de sombre, il y a quelque chose d'inconnu dans l'eau et qui est associé aux galères. C'est-à-dire que jusqu'au 16e siècle et au 17e siècle, on envoie des gens aux galères.
Oui.
Et ce sont souvent des criminels de toutes sortes qui sont envoyés là. Alors, l'idée qu'on appartienne aux bas-fonds renvoie aux bas-fonds des cales, d'abord et avant tout.
C'est intéressant. Hein?
Des cales des navires.
Est-ce le terme galérie vient aussi de cette époque-là?
Oui, bien sûr. C'est, donc, l'eau, c'est l'humidité, c'est l'omniprésence donc de tout ce qui grouille et qui gargouille dans le fond d'endroits de marécage de toutes sortes. Alors, l'idée d'un marécage social va s'établir un peu en rapport, montre-t-il, donc avec cette idée des galères. Et peu à peu, on va construire l'idée que la misère, le vice, le crime, ce soient des choses qui se recouvrent ensemble avec les pauvres. Et peu à peu aussi avec les travailleurs. Ce sont des groupes de gens qu'on va fondre ensemble de façon assez extraordinaire.
Et donc, qui vont devenir suspects aux yeux des autorités ou des classes plus riches, là, à partir de l'industrialisation, on peut imaginer, à cause de la formation des syndicats aussi. Hein?
Oui, on voit que dans la construction, donc, de l'idée même de bas-fonds, il y a une mise en abîme. C'est un miroir de gens qui sont plus fortunés et qui, évidemment, craignent par rapport aux enjeux sociaux qui sont les leurs, maintenir donc un pouvoir de cohésion, mais aussi le maintien aussi de certaines habitudes qui sont les leurs. Quand on a un miroir social qui renvoie exactement le contraire de ce que nous, on privilégie comme étant la bonne façon de procéder en société, on s'inquiète. Alors, il va y avoir peu à peu le développement de toutes sortes d'associations, par exemple la saleté, la boue. Hein. On le voit dans les descriptions à partir du 16e, du 17e siècle, où les quartiers pauvres sont éminemment associés à l'idée de saleté. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais il y a un rapport de construction à l'idée que tous les déchets du corps, par exemple, hein, les excréments, les restes de copulation. Alors, il y a un discours là qui est associé très étroitement à l'idée qu'il y a quelque chose de putride. Les rejets du corps sont associés même à des individus. Ils deviennent les individus eux-mêmes. Il y a une animalisation, en quelque sorte, de certains individus dans la société.
Ici, en Amérique, on dit les sauvages.
Oui, et en Europe aussi, il faut bien le savoir. Il y a une fascination à l'époque pour cette espèce d'homme sauvage, hein, au sens le plus péjoratif du terme.
Oui.
On se rappellera qu'à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, les bandes de criminels, de jeunes voyous qui hantent les rues de Paris sont appelés des apaches. Hein. Et il y a là aussi toute une fascination, on le voit dans les romans de Victor Hugo,
oui.
Et il le montre bien là-dedans, pour toute une catégorie d'univers d'autochtones complètement fabulés qui sont renvoyés à l'idée de bêtes. Donc, il y a l'idée que chez ces gens-là, qui appartiennent à des catégories moins favorisées dans la société, pour toutes sortes de raisons, ils appartiendraient à une classe d'hommes, de sous-hommes, littéralement. Et on va peu à peu construire l'idée qu'il va falloir les exclure. On voit à Londres, par exemple, la construction de pénitenciers. C'est ce que Foucault avait fait, notamment dans son Surveiller et punir. C'est analyser un peu ce rapport-là, l'idée qu'on va construire des hôpitaux qui sont en fait des moyens de contraindre des gens à être à l'écart de la société. des prisons qui sont vouées à ça aussi. Et là, on voit, en fait, surtout à partir du 19e siècle, cette croissance absolument fabuleuse de l'angoisse de toute l'élite d'une société à l'égard d'une partie de la population qu'elle n'arrive plus ou qu'elle arrive mal à contrôler selon ses désirs et selon ses besoins à elle. Hein. Donc, on veut ordonner de plus en plus pour rendre lisible la propre réalité qui est la nôtre. Hein. Parce que cette idée qu'il existerait dans les sociétés des choses si différentes que ce que les gens bien portants et bien pensants et bien fortunés peuvent vivre, oui, a quelque chose de troublant pour ces gens-là qui préfèrent l'ignorer.
Oui. On assiste au même phénomène au 20e siècle lors d'événements spéciaux comme les Olympiques, par exemple, où on va nettoyer les villes des sans-abri, littéralement.
Oui,
hein. On l'a fait à Vancouver,
oui,
par
exemple. Oui, dans différents grands événements. On l'a fait au Brésil,
oui,
aussi. Hein.
Oui.
Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi cette définition de la pauvreté qui devient de plus en plus englobante. L'idée, par exemple, qu'à partir de 1806, notre historien Dominique Khalifa le montre bien. À partir de 1806, on définit la pauvreté comme la condition, écoutez bien ça, la condition de tous ceux qui doivent travailler pour subsister. Ça commence à faire pas mal de monde dans nos sociétés.
Ça nous inclut, ça, Jean-François.
Et ça donne, oui, un certain rapport aussi à qui parle à ce moment-là. Ce sont des gens qui appartiennent à la noblesse ou à une certaine élite qui sont à l'abri de la nécessité, oui, de devoir travailler. Or, on sait très bien, au 19e siècle, c'est la montée fulgurante, donc, des processus industriels de production.
Oui.
C'est la réalité du monde industriel qui s'installe. Et là, on va avoir une paupérisation de plus en plus de gens pauvres à cause, justement, des moyens de production qui se mettent en place. La pauvreté, ça devient moins un accident de nature qui est toléré. D'ailleurs, dans le système de la religion catholique, dans la chrétienté, il y a quelque chose d'un accord, naturellement, avec les pauvres.
Bon, on le voit comme quelqu'un qu'il faut protéger.
Il faut protéger. Ouais. Alors là, ça devient quelqu'un qu'il faut éliminer.
Ouais.
Il y a une crainte et de plus en plus, on va associer à l'idée même du pauvre l'idée de l'émeute. Hein. L'émeute est là une maladie. C'est une maladie sociale.
Ouais.
Si les gens se rebellent, s'ils demandent de nouvelles conditions sociales, s'ils dressent des barricades, c'est qu'on a affaire à une maladie sociale plutôt qu'au révélateur de quelque chose qui ne fonctionnerait pas en société.
Mm-hmm.
On a encore des relents de ça dans nos sociétés. Hein? Il ne faut pas être très, très perspicace pour entendre des discours qui sont des suites de ça. Hein? On préfère dire « Ah, voyez, vous avez une catégorie de gens qui ont des problèmes sociaux », plutôt que de dire « Ah ben, une partie de leur action provient probablement du fait qu'ils constatent que quelque chose fonctionne
pas. » Puis on
pas.
Les réunit en groupe aussi,
oui,
on les voit plus comme des individus.
Oui. Alors, les mêmes images vont être utilisées, cette idée de maladie-là, pour les syndicalistes, hein, ça,
oui,
date du 19e siècle,
oui,
pour les anarchistes, hein, qui sont tous jugés systématiquement dans la presse de l'époque et dans les romans, qui,
oui,
sont analysés aussi comme des amoraux, des criminels et des aliénés potentiels. Hein? Il y a quelque chose qui est
oui,
assez formidable. Hein? Et donc, le pauvre, c'est au fond un individu qui va croupir dans les bas-fonds qui est déchu de toute identité sociale.
Oui.
Il appartient même plus à une classe sociale. C'est un animal qu'on a repoussé. Et ça va très, très loin. Par exemple, en Angleterre, on montre bien que les Irlandais sont présentés en masse comme un peuple de bas-fonds.
Absolument.
Hein? Et donc, c'est même plus une classe sociale, c'est un problème national. On assimile aux bas-fonds, je l'ai dit tout à l'heure, les Indiens aussi, ce qui montre assez bien. Et y a l'idée aussi que, peu à peu, la pauvreté, c'est un enfer social. Hein? C'est l'endroit où il ne faut pas se retrouver, mais où, hélas, beaucoup de gens se retrouvent. Et comme l'enfer est condamnable dans l'au-delà, il est aussi condamnable sur Terre. Le travail, donc, est une menace, et est une menace qui pèse sur les riches parce qu'il entraîne la paupérisation. Il y a de plus en plus de pauvres qui sont là. Et c'est là qu'on voit apparaître dans les procédures et dans les motifs policiers à l'époque de travailler, dans les façons de faire, les fameuses listes. On va dresser de plus en plus,
oui,
des listes d'individus, des types d'individus. Hein? Il y a une maladie chez l'humain de classifier tout. Ça a donné les sciences, en d'autres termes.
Oui. Oui.
Les processus de classification.
Oui.
Mais c'est là où on va avoir toutes sortes de pseudo-sciences policières qui vont établir que tel type de corpus humain, de cerveau, de profil, de tel type de nez, on est plus susceptible d'avoir affaire à des criminels.
Oui, une vision même biologique de la criminalité,
absolument,
de plus en plus. Hein, le gène de la criminalité pourrait s'identifier, dis donc.
Et bien sûr, c'est les romantiques et des gens comme Charlie Chaplin, par exemple, qui vont un peu revaloriser cet univers-là en lui donnant un parfum un peu de bonté, qui tient à la malchance, qui tient à des conséquences sociales qui ne sont pas voulues. Ce qui est, au fond, assez troublant, c'est qu'on se rend compte que cette idée-là de liste, cette idée-là de contrôle, cette idée où on dit qu'en chaque pauvre se trouve potentiellement un criminel dangereux, c'est quelque chose qui existe encore passablement. On pourrait pousser l'analyse en disant, par exemple, dans la réforme en ce moment que le gouvernement Harper fait, il y a quelque chose un peu de ça, hein, l'idée qu'il faut contrôler la personne qui est en arrêt d'emploi pour l'assurance emploi, il faut la contrôler, il faut voir ce qui se passe, il faut la ficher, il faut qu'elle se rapporte parce que potentiellement il y a un fraudeur. Donc c'est une idée qui vient essentiellement qui a germé au 19e siècle.
Alors voilà, donc il faut lire cet ouvrage fascinant, Les bas-fonds, histoire d'un imaginaire de Dominique Khalifa, c'est publié au Seuil. Jean-François Nadeau, merci beaucoup de l'avoir lu pour nous. Merci.
Merci.